Voilà, on va donc rejoindre Michel Ruimi de Lévis Capital Partners. Bonjour Michel.
Bonjour Antoine.
Alors, on va faire un point sur les chiffres qui fâchent. Ça nous ramène à ce matin en France. Inflation bien au-delà des 2%, une croissance révisée à négative sur le dernier trimestre. Ça y est, est-ce que le narratif de stagflation commence doucement à s'installer sur l'économie française selon vous ?
Oui, clairement, parce que le mot commence à circuler dans les salles de marché et parmi les stratégistes macro. Mais attention toutefois, on n'est pas dans une stagflation, je dirais celle qu'on a connue dans les années 70, avec une spirale inflation-salaire totalement hors de contrôle. La combinaison aujourd'hui, elle est plus problématique car on a une croissance qui cale, une demande intérieure fragile, et une inflation qui reste trop élevée par rapport à la cible de la BCE. Mais ce qui inquiète les investisseurs, c'est surtout la nature de cette inflation. On n'est plus uniquement sur un choc énergétique, mais les services restent inflationnistes, les coûts salariaux augmentent et certaines rigidités de l'économie française, hein, qui sont structurelles, comme le niveau élevé des dépenses publiques, une productivité qui est au ralenti et un marché du travail segmenté, eh bien, toutes ces rigidités obtiennent, on va dire, des tensions inflationnistes alors même que l'activité ralentit. Et le vrai sujet, c'est que la France rentre dans une zone de croissance molle avec des taux durablement plus élevés qu'avant 2022. Or, pendant 10 ans, l'économie française a vécu sous supervision de taux zéro et ce régime monétaire est terminé. Et beaucoup d'acteurs, comme notamment l'État et certaines entreprises endettées, n'ont pas totalement intégré ce nouveau paramètre, ce nouveau coût du capital. Et donc, je dirais que le narratif stagflationniste s'installe progressivement, mais pas comme un scénario central catastrophe, mais comme un risque crédible qui est désormais intégré par les marchés.
Alors, que nous disaient les autres indicateurs de la journée en Europe ? On a eu de l'inflation, on a eu chômage en Allemagne, on a eu croissance italienne. Quel est le panorama, on va dire ?
Eh bien, le tableau européen est assez révélateur d'une économie qui ralentit, mais sans véritablement s'effondrer. En Allemagne, le signal le plus important est la faiblesse industrielle. Le modèle allemand, qui notamment s'appuie sur une énergie abondante, les exportations, une puissance manufacturière, subit une pression considérable. Et en même temps, le chômage remonte progressivement, ce qui s'était impensable il y a encore quelques années. Donc cela traduit une réelle perte de dynamisme industriel. Quant à l'Italie, elle résiste un peu, mieux que prévu sur certains semestres, grâce notamment au tourisme, à la construction et aux fonds européens, mais la croissance reste fragile, à mon goût, et elle est très dépendante des conditions financières. Et avec une dette publique qui est extrêmement élevée, l'Italie est très sensible à toute remontée de taux. Et si on considère maintenant l'inflation européenne, eh bien le marché voit bien que la désinflation existe, mais qu'elle ralentit. Ça, c'est un point essentiel, mais revenir de 10% à 3%, c'est, on va dire, relativement facile et relativement rapide, mais revenir durablement à 2% est beaucoup plus difficile, et c'est là que les banques centrales se trouvent un peu piégées. Et le résultat est que nous sommes dans une Europe qui évite la récession brutale, mais qui entre dans une forme de stagnation molle, plutôt, avec peu de gains de productivité, peu de croissance potentielle et une dépendance croissante à la dépense publique.
Bon, malgré tout, on semble être sur un climat de détente obligataire. Il y a un petit peu moins de volatilité. Est-ce que ça peut durer ? D'autant que les anticipations de relèvement de taux côté BCE sont quand même bien confirmées, là, pour le coup.
Ben c'est, à mon sens, c'est le sujet le plus important du moment sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, les marchés obligataires vivent sur une idée plutôt relativement simple, c'est-à-dire que la BCE est proche de sa fin de son cycle restrictif et que la croissance européenne est trop faible pour supporter des taux durablement élevés. Donc c'est ce qui explique la détente récente sur les rendements et le retour à un peu de calme sur la volatilité. Mais il y a une contradiction importante, à mon avis. Si l'inflation est plus persistante que prévu, notamment dans les services et les salaires, eh bien, les banques centrales devront maintenir des conditions monétaires restrictives beaucoup plus longtemps. Et autrement dit, le marché price déjà une normalisation monétaire relativement rapide, alors que les fondamentaux inflationnistes ne sont pas totalement réglés. Et cela risque crée un risque de réveil brutal de la volatilité. Et par ailleurs, comme je disais tout à l'heure, il faut pas oublier un élément structurel. Les États européens doivent refinancer des volumes de dette massifs dans un environnement de taux beaucoup plus élevé qu'avant 2022. Et la gratuité monétaire est révolue. Et donc la question centrale devient donc qui absorbera durablement cette masse de dette sans exiger une prime de risque plus élevée. Et pour l'instant, les investisseurs sont confiants parce que la BCE est crédible et que la croissance est faible. Mais si l'on a simultanément, on va dire, une inflation persistante, des déficits budgétaires encore qui s'accroissent et une croissance molle, alors les marchés obligataires pourraient redevenir extrêmement nerveux. Et donc, ce qui veut dire que le calme actuel est donc fragile, mais c'est pas un nouveau régime de stabilité.
Voilà, faut pas s'y habituer, mais c'est vrai que ces derniers temps, ça a tendance à se calmer un tout petit peu. 3,57 sur le 10 ans français, 2,96 sur le 10 ans allemand et 4,45 pour le 10 ans américain. Merci infiniment, Michel Ruimi de Lévy Capital Partners, pour ce panorama complet, hein, macroéconomique.